écrit l'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison avec vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Arlette Gelabert.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit donc aujourd'hui Arlette Gelabert pour son roman « L'amour et ses chimères, avant MeToo », paru aux éditions Essel en 2025. Arlette Gelabert est une auteure autrice prolixe, puisqu'en 2021 et 2025, vous avez écrit 18 ouvrages, du théâtre de jeunesse au récit de voyage, en passant par des nouvelles, des romans, de la poésie. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la page de votre roman. Avant d'échanger sur le livre qui nous occupe aujourd'hui, première question, qu'est-ce qui vous pousse à écrire autant ?
Alors, je vais juste faire une petite rectification avant de répondre à la question. J'ai commencé à écrire en 2016 et pas en 2021.
D'accord. J'ai cité les ouvrages qui étaient cités dans votre livre entre 21 et 25.
Parce qu'il y a eu des rééditions, donc en fait,
D'accord.
Et qu'est-ce qui me pousse à écrire ? Eh ben, c'est une question qu'on se pose souvent. Moi, je dirais que c'est juste le goût des mots, l'envie de raconter des histoires et peut-être aussi de poser des questions sur la vie dans son ensemble.
D'accord, merci beaucoup.
Alors, dans « L'amour et ses chimères » avant MeToo, Arlette Gelabert témoigne de ses relations avec les hommes depuis son adolescence. Dans cette sorte de bilan, elle pose les questions de l'amour, du romantisme, de la liberté sexuelle, de l'abandon, du consentement, de la maternité, de l'éducation. Peut-on y répondre ?
Alors dans ce livre, Arlette Gelabert, où vous avez choisi de décrire votre parcours de relation amoureuse pour tenter de répondre à plusieurs questions qu'on retrouve en quatrième de couverture. Vous me direz si je me suis méprise. Nous allons peut-être ensemble justement essayer de voir si cet ouvrage vous a permis de répondre aux questions posées. Par exemple, une de vos questions, c'était « Et alors, comment les hommes de ma génération, génération qu'on appelle celle des boomers, se comportaient-ils dans les relations amoureuses ? Est-ce que vous avez une réponse après ce passage par votre mémoire ?»
Oui, mais je crois que la réponse, je l'avais avant, puisqu'en fait, l'objet de ce livre, qui n'est pas précisément un roman, mais plutôt justement à la base, j'ai commencé à l'écrire parce que je me posais des questions, non pas sur la façon dont les hommes de ma génération vivaient les relations amoureuses, parce que ça, je le sais, en fait, je l'ai vécu donc, avec eux, mais plutôt pourquoi... En l'espace de quelques décennies, les relations amoureuses, les modes de relations amoureuses entre les hommes et les femmes ont changé à ce point, et notamment à partir du mouvement MeToo. Donc, moi, mon questionnement, c'était de comprendre comment, à une certaine époque, on acceptait un certain nombre de modes de relations qui n'étaient pas forcément toujours très, comment dirais-je très acceptable, tout simplement. Et comment ces hommes et nous, les femmes avec qui on vivait ce genre de relations, comment on les avait acceptés ? Pourquoi on les avait acceptés ? Pourquoi on n'a pas... pourquoi il a fallu attendre un mouvement comme celui de MeToo plusieurs décennies après pour s'interroger sur ce qui n'allait pas, ce qui était bancal dans nos relations amoureuses.
D'accord. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez pointé, hein, il y a quelques éléments dans votre ouvrage. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont apparues finalement comme éléments de compréhension à cette question? Qu'est-ce qui fait qu'il a fallu autant de temps? Est-ce que vous avez des...
Alors là, il faudrait être vraiment sociologue pour répondre à la question. Je pense qu'il y a tout simplement une évolution de la société. Le fait qu'effectivement, un certain nombre de femmes, puisque ça vient des femmes, le mouvement MeToo à la base, se sont révoltées contre des pratiques qui n'étaient pas acceptables. Que nous, dans ma génération, nous avons accepté parce qu'on était sur d'autres... On était sur un autre mode d'évolution. C'est-à-dire que, bon, moi, j'avais 20 ans dans les années 70 et c'était juste après mai 68. Donc, ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, etc., un mouvement de liberté. Et je pense que, du coup, cette liberté qu'on avait tout à coup, qu'on pouvait se permettre d'avoir... a fait qu'on a occulté aussi des comportements qui n'étaient pas corrects, parce qu'on était dans un autre chemin. Et là, le chemin, il a été parcouru, les femmes ont acquis une certaine forme de liberté, les relations entre hommes et femmes se sont, pas tout à fait équilibrées, mais presque. Et du coup, on a pu pointer, je pense, ce qui n'allait pas depuis tout le temps.
D'accord. Justement, sur ce qui n'allait pas, on peut le deviner, mais est-ce que vous avez des choses précises un peu, hein, puisque c'est un peu une radioscopie de ce parcours que vous avez fait. Vous dites à un moment d'ailleurs, une de vos questions, c'est qu'est-ce qui fait que nous pouvions accepter des choses à cette époque qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses un peu précises, par exemple, que vous avez relevées, que ce travail écrit vous a permis un peu de relever?
Alors, dans l'écriture de ce livre, j'ai surtout essayé d'abord de me remémorer des anecdotes qui pouvaient illustrer le propos. Et puis, c'est vrai que dans mon idée... C'était vraiment de poser les questions. Je n'ai pas forcément les réponses à toutes ces questions-là. Après, pourquoi est-ce qu'on a accepté un certain nombre de choses? Simplement parce que dans la société des années 70, une femme, par exemple, qui allait dans un commissariat pour se plaindre du comportement abusif d'un homme, voire au-delà de l'abus d'un viol... C'était pas dans les mœurs de la société, tout simplement. On n'était pas reçu. Déjà aujourd'hui, ça reste compliqué quand on écoute les témoignages de beaucoup de femmes qui sont pas forcément reçues toujours très bien dans les commissariats. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. C'était tabou, même dans les familles. Quoi. Je veux dire, la sexualité tout ce qui avait trait à la sexualité a commencé à... On a commencé à en parler après mai 68, mais il faut du temps pour que les esprits évoluent, pour que les mœurs évoluent. Et donc, je pense que simplement, voilà, c'était des sujets tabous, donc on n'en parlait pas.
D'accord. Alors, par rapport à ça, c'est intéressant, parce que dans votre livre, en tout cas, tel qu'on l'a compris, vous vous décrivez plutôt comme quelqu'un qui avait été averti sur les choses de la sexualité, on va dire. Hein.
Complètement.
C'était assez paradoxal. En tout cas, à la lecture, vous dites être vous-même tombé dans des pièges. Hein, c'est moi qui utilise ce terme-là. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, il y a la question de l'éducation de la sexualité. Mais est-ce que c'était suffisant pour justement ne pas tomber dans ces travers relationnels entre les hommes et les femmes à l'époque?
Alors, je pense que l'éducation sexuelle, c'est une chose, et que la compréhension et la maturité, c'en est une autre. Beaucoup de mes amis de l'époque n'avaient reçu aucune éducation sexuelle. Ce qui fait que quand elles se retrouvaient pour la première fois dans le lit d'un garçon, non seulement elles découvraient comment ça se passait de façon pratique, concrète, et ça pouvait être un traumatisme pour certaines d'entre elles, selon la façon dont les choses se passaient. Mais éducation sexuelle, ça ne veut pas dire... attention, il y a des gestes qu'on doit accepter, d'autres qu'on n'accepte pas. C'est juste, enfin, tel que moi je l'ai reçu, c'est une éducation, on va dire, entre guillemets, technique. C'est-à-dire que, voilà, je savais ce qui se passait quand un homme et une femme faisaient l'amour pour la première fois. Je savais, je ne vais pas détailler les choses là, mais
non, c'est pas la peine.
Voilà. Par contre, j'avais pas forcément. Je suis d'une famille d'origine méditerranéenne, donc avec ces choses-là, on n'en parlait pas.
Je crois que dans les mêmes familles méditerranéennes.
Comment ?
Je crois que c'était assez général, pas seulement dans les familles
oui,
d'origine.
Oui, c'est vrai, mais ayant une maman italienne, et voilà, c'était vraiment des choses extrêmement taboues pour les femmes de sa génération déjà. Donc elle a voulu effectivement me donner une éducation sexuelle pour que je ne sois pas traumatisée la première fois, puisque c'est quelque chose qui est arrivé dans la famille à une de ses tantes, en fait. C'est ce qui a été le déclic, en fait, pour ma maman de transmettre une éducation sur ce thème-là. Par contre, c'est pas forcément une éducation à la relation avec l'autre.
Oui, c'était technique pour pas que vous voilà. Soyez anatomique, technique.
Voilà, exactement.
D'accord, merci beaucoup.
Oui, alors parce qu'à un moment donné, dans le livre, tu parles aussi d'une éducation globale, quoi, qui ne favorisait pas, enfin, qui t'empêchait. À plusieurs reprises, tu dis, on m'a obligée, j'avais noté, je n'ai pas eu le choix, comme si l'éducation, tu suivais des injonctions, quoi.
Bah, je pense que dans toutes les personnes qui ont été éduquées dans les années 50 et 60, il y avait des schémas d'éducation très, très particuliers, très cadrés, très, voilà. Dans ma famille, il y a un garçon et une fille, j'ai un frère. Mon frère a eu des libertés que je n'ai pas eues, tout simplement parce que dans la mentalité de l'époque, les filles et les garçons n'avaient pas les mêmes droits, n'avaient pas la même liberté. Donc effectivement, il y avait des injonctions à se comporter de telle ou telle manière.
Oui, ça c'est sûr, j'ai connu les mêmes. Hein. Donc, alors, on va continuer après la pause musicale. Donc, Arlette Gélabert a choisi Anne Sylvestre. Non, tu n'as pas de nom.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non. Tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise. Et d'instinct, je te résiste, depuis si longtemps j'existe. Depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui, je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non. Non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2. Dans l'émission Écrit d'ici, nous recevons aujourd'hui Arlette Gélabert pour son témoignage « L'amour et ses chimères avant MeToo ».
Alors, peut-être sur des choses plus précises, dans le livre, hein, page 108, il y a cette question, alors, qui est un sujet un peu de débat, hein, où il est écrit « Malgré des revendications indiscutablement légitimes, je ne me sens pas solidaire des ultra-féministes. Je ne ressens pas l'animosité, le désir de revanche contre les hommes, qu'ont certaines militantes du mouvement. L'idée, c'est est-ce que cette radicalité, hein, c'est un peu ça qui est écrite, n'est pas justement l'aboutissement de générations qui ont peut-être été moins offensives, hein, et pourtant il y a des mouvements féministes qui ont été très offensifs, y compris dans les années 70, avec notamment le MLF, hein, qui a été assez décrié, hein, où on disait souvent que c'était des mal baisés, hein, pour dire combien ça venait taper dans les standards de la société. Mais est-ce que ce radicalisme, il n'est pas justement aussi le moyen de faire avancer les choses pour les générations actuelles, puisque des dizaines d'années de lutte ont finalement, somme toute, eu du mal à faire se rééquilibrer l'équilibre et l'égalité entre les hommes et les femmes.
Alors, je pense que la lutte des femmes telle qu'elle a été vécue dans les années 70 par le MLF, effectivement, a beaucoup fait avancer les choses. En parallèle, et ça n'est qu'une opinion personnelle, je ne suis pas certaine que le radicalisme et le fait d'opposer les hommes et les femmes fassent vraiment avancer les choses. Parmi les militantes féministes des années 70, 80 et même avant, des femmes comme Gisèle Halimi n'ont jamais dit qu'il fallait mettre les hommes de côté, qu'il fallait que ce soit un combat contre les hommes. Et je pense qu'effectivement, c'est une évolution qui doit se faire ensemble. Moi, j'ai beaucoup de mes amis qui ont, de ma génération aujourd'hui, hein, qui se posent des questions sur la façon dont ils ont agi quand ils avaient entre 20, 30... et 30 ans, qui se disent que peut-être, effectivement, ils ont eu des comportements qui n'étaient pas adéquats et qui, aujourd'hui, n'osent plus avoir une relation naturelle avec certaines femmes, parce qu'effectivement, il y a cet antagonisme qui est monté de façon radicale par une certaine partie des femmes. Je ne suis pas persuadée que ce soit la bonne méthode.
Alors, sur cette question-là, ce qui se donne à voir de plus en plus, et c'est vrai sur d'autres points, un des leviers, hein, c'est l'éducation. Mmh. Et d'ailleurs, ce soir, il y a un très beau reportage, hein, qui s'appelle « Éduquons nos garçons ».
Oui, tout à fait.
Et est-ce que justement, les gens de la génération des boomers, mmh, hein, comme c'est écrit dans ce livre, ont pris conscience, ou est-ce qu'il y a eu des choses au niveau de l'éducation de leurs enfants, par exemple? Est-ce que c'est les enfants étaient le fer de lance un peu des changements de ce qu'elles avaient vécu, elles, comme étant, un poids insupportable et puis une mise un peu en domination insupportable.
Alors, je vais vous faire une réponse un peu de Normande, parce que, à l'instar de la chanson qu'on a passée précédemment, d'Anne Sylvestre, moi, je n'ai pas eu d'enfant. Donc déjà, je n'ai pas mis en pratique ce que j'ai pu ressentir, vivre et comprendre. Si je me réfère aux enfants de mes amis, ils ont effectivement bénéficié de cette prise de conscience. Déjà dans le sens où il y a eu moins de distinction dans la manière d'éduquer les garçons et les filles. Où il y a eu aussi des discours faits par les parents vis-à-vis de leurs filles sur le fait qu'elles avaient l'entièreté, elles avaient la liberté entière de vivre comme elles le souhaitaient, d'accepter ou pas ce qu'elles avaient envie d'accepter de la part des hommes, et plus généralement, je dirais, de la société. Donc, oui, je pense qu'il y a eu quand même une évolution. Après, il y a des modes de fonctionnement qui ont la vie dure et qui peuvent changer dans la sphère privée, mais qui persistent dans la sphère publique, dans les relations qu'il y a dans le monde professionnel, par exemple. On sait très bien que la place de la femme n'est pas tout à fait exactement la même que celle de l'homme. Et donc, toutes ces évolutions sont quand même très, 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 très lentes, quoi, je veux dire. Il faut des générations, justement, pour que ça bouge, parce que même si on intègre intellectuellement un certain nombre de choses, je pense que l'intellect ne suffit pas. Je pense qu'il faut, à un moment donné, arriver à ce que ce soit vraiment intégré de façon presque biologique. Je ne sais pas comment dire les choses, mais... Et c'est ça qui prend du temps.
Moi, j'avais une petite question, tu l'as abordée, effleurée. C'était à propos de la maternité, justement, par rapport à la chanson d'Anne Sylvestre. Parce que tu soulignes dans ton livre le problème, si tant est que ce soit, de ne pas avoir d'enfant. Comment c'est perçu dans la société et que ça évolue, mais que c'est... Bon. C'est pas toujours quand même.
Effectivement, enfin moi, ce que j'ai vécu, c'est que déjà, je ne me suis jamais mariée, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas eu une vie sentimentale et complète. Mais c'était oui, dans les années 70, 80, 90, c'était un problème par rapport au regard des autres. C'est-à-dire qu'on m'a très souvent dit, mais à 30 ans, comment ? T'es pas mariée, t'as pas d'enfant, fais attention, ça va pas durer tout le temps, puisqu'on sait que nous, femmes, on peut pas enfanter jusqu'à des âges très avancés. Et c'est quelque chose, oui, qui était perçu comme étant hors norme ou hors normal, carrément. D'avoir cette liberté-là de dire ben non, de toute façon, j'ai pas d'enfant, ça m'empêche pas d'être une femme accomplie, d'avoir un métier, d'avoir des amis, d'avoir des idées sur la question. Mais oui, c'est quelque chose, et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait encore.
Oui, parce qu'il y a quand même une pression, alors la société en général, et des parents. Des grands-parents, je dirais, des futurs grands-parents éventuellement, qui souhaitent des petits-enfants. Et la pression, elle se fait aussi en famille, quoi.
Je pense effectivement que... Je suis certaine que ma maman, ça a été un grand regret de sa vie de ne pas avoir de petits-enfants. Alors, elle en a du côté de mon frère, mais on en a discuté. Elle aurait bien aimé, effectivement, que j'ai des enfants. Après, la vie fait que, parfois, le chemin qu'on a envie de prendre, il est barré par des obstacles, et puis on en prend d'autres. Et puis, c'est pas toujours un choix non plus de ne pas avoir d'enfant.
Non, peut-être justement parmi vos amis hein, de l'époque, comme vous dites, est-ce que sur cette question de maternité ou de grand-maternité, vous voyez qu'effectivement il y a un peu plus de tolérance par rapport à ce que vous dites. Parce que je pose cette question-là parce qu'en fait, ce dont on se rend compte aussi, c'est que 80% des enfants sont élevés par des femmes, donc ça va rejoindre un de vos propos. Donc ça veut dire que cette question d'égalité homme-femme, elle est effectivement une question et d'hommes et de femmes.
Absolument.
Puisque les femmes sont aussi des vecteurs de passage de domination.
Oui.
En tout cas, est-ce que vous voyez ça parmi vos amis en disant, ben, effectivement, ça a fait école et on voit bien quand même que... Où est-ce qu'il y a une reproduction malgré tout ? C'est la question des petits-enfants, parce que moi, je suis toujours un peu frappée, effectivement, de la pression familiale pour avoir des petits-enfants, y compris par, éventuellement, des parents, et notamment des futures grand-mères féministes, hein, qui prônent un peu la liberté.
Alors, si je prends comme exemple mes amis... certains ont eu des enfants, mais n'en ont fait qu'un. D'autres n'en ont pas eu, comme moi. D'autres avaient un tel désir, notamment, là je parle de femmes, de maternité, qu'elles ont fait des enfants sans les hommes, ou elles les ont adoptés. Donc je pense qu'il y a vraiment tous les cas de figure. Après, il faut quand même bien... accepter et avouer que l'éducation effectivement est faite essentiellement par les femmes, en tout cas l'était dans ma génération, et que donc ce sont aussi les femmes qui ont mis en place cette différence dans la façon d'élever leurs enfants, garçons et filles.
Oui, mais elles n'élèvent pas de la même façon les garçons et les filles.
Non, justement, mais bon, c'est ce que je, oui, c'est ce que je dis.
C'est un autre débat.
Voilà. Moi, je veux dire, les freins que j'ai eus, les trois quarts du temps, effectivement, c'est ma mère qui me les a donnés, ces freins, mais parce qu'elle les avait reçus elle-même de sa propre mère. Et donc, encore une fois, je pense que tout ça met beaucoup de temps à évoluer. Je pense que même parmi les parents de ma génération, ils ont essayé de donner une éducation relativement équilibrée aux garçons et aux filles, de donner la même éducation. Je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas des résidus de différence entre la manière, la liberté qu'on va octroyer à un garçon et celle qu'on va octroyer à une fille. Je pense que c'est plus compliqué pour une fille, même encore aujourd'hui, de vivre pleinement en se disant ben non, finalement, moi, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. Un homme. Même à un autre niveau, je veux dire, je pense qu'on tolère beaucoup plus facilement encore aujourd'hui qu'un homme ait des relations papillonnes à droite à gauche pendant un certain temps avant de se stabiliser. Un drôle de mot, se stabiliser pour dire se mettre en couple et voilà. Et que chez les femmes, c'est nettement moins bien perçu. De la même manière qu'on accepte plus facilement qu'un homme mûr et une relation avec une jeune femme de moins de voilà, qui a 20 ans de moins que lui, quand c'est l'inverse qui se passe, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est sûr. Donc merci. Là, ouais, merci.
Merci beaucoup. On est arrivé au terme de l'émission quasiment.
Oui. On va juste le temps de passer un tout petit peu Léonard Cohen qu'a choisi Arlette. Alléluia.
There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah, 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 hallelujah. You needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. Then she broke your throne and she cut your